France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Pardon, darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Combien de fois faudra-t-il vous le dire ? Méfiez-vous des prophètes de malheur qui vous prédisent la fin des temps. Le plus souvent, ils cherchent moins à prédire l'avenir qu'à installer leur domination sur le présent. L'Apocalypse, en grec, c'est un dévoilement des choses cachées du monde, davantage une révélation qu'une prophétie. Alors commence non pas la fin des temps, mais l'interminable poisseux périlleux temps de la fin. Au moment du danger, le plus prudent, disait Ernst Bloch, est de s'emparer de quelques vieilles choses pour y voir renaître l'archaïque. Par exemple, ce manuscrit du commentaire de l'Apocalypse de Beatus de Liébana, enluminé après l'an 1000 pour l'abbaye gasconne de Saint-Sever. C'est un monument de l'art médiéval, servant de guide à l'exposition qui s'ouvre à la Bibliothèque nationale de France « Apocalypse, hier et aujourd'hui » et une superbe monographie savante vient explorer sa géographie du mal. Parfois, on se dit « c'est trop grotesque pour être vraiment dangereux ». Mais quand Georges Bataille regardait le Béatus de Saint-Sever en 1929, il y voyait l'enfantillage dans l'horreur, la stupeur, oui, mais apparemment désarmé par une tranquillité à peu près gâteuse, la niaiserie sénile des créatures obscures. Ça vous rappelle quelque chose ? Alors, allons-y voir. Avec Isabelle Marchesin et Maria Stavrinaki, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Pierre Saint-Garavelou. Allons voir aussi tous ces regards portés sur cette catastrophe lente à venir. Et puis, si vous voulez tout savoir, moi, quand je pense à la fin du monde, bah, c'est plus fort que moi, me revient toujours le film de Lars von Trier en 2011, Mélancolia.
Qu'est-ce qu'on attend avec impatience ?
Demain soir !
Eh oui !
J'ai peur de cette stupide planète.
Elle ne va pas nous heurter.
Tu me le promets. Il n'y a de la vie que sur la Terre. Et plus pour longtemps.
Moi, je crois que t'en sais rien du tout.
Par moments, je te veux tellement, Justine.
Que la planète nous heurte quand même.
Isabelle Marchesin, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, actuellement au poste au musée de Port-Royal. En 2017, vous avez publié un très beau livre sur les portes de bronze d'Idelsheim, intitulé « L'arbre et la colonne ». Et ce sont aussi ces motifs de l'engendrement, de l'architecture, du rythme, du jeu des dissemblances que l'on retrouve dans votre contribution au livre publié sous la direction de Charlotte de Noël, « Le Béatus de Saint-Sever », paru chez Citadel et Masneau, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. Vous y évoquez cette théologie de l'image. Comment on peut ne pas s'y perdre dans ce dédale ?
Le foisonnement des informations est absolument impressionnant. C'est l'un des manuscrits les plus riches de ce point de vue-là, de toute la période médiévale. Donc il faut essayer d'abord de comprendre la structure interne du manuscrit à travers les textes et à travers les images.
Ben, on va s'y employer. Bonjour Maria Stavrinaki.
Bonjour.
Vous êtes professeure associée à l'Université de Lausanne, spécialiste des avant-gardes et du messianisme entre révolution, préhistoire et apocalypse. On vous doit vois notamment un très beau livre sur Karl Einstein, paru en 2018 aux presses du Réel, Contraindre à la liberté. Vous avez été co-commissaire de l'exposition L'âge atomique, les artistes à l'épreuve de l'histoire, qui vient de s'achever au Musée d'art moderne de Paris. Et vous aussi, vous avez contribué au catalogue sur notre Beatus en analysant les interprétations modernistes de l'apocalypse. C'est plus que la guerre. Au fond, c'est vraiment la catastrophe au sens presque subliminal.
Exactement, c'est la catastrophe qui vient briser l'accumulation de l'histoire. Oui. Le temps qui se répète sans cesse et qui va tout droit. C'est une catastrophe qui a pris plusieurs contenus. C'est la révolution, c'est la guerre, c'est la révélation de l'esprit.
Alors je voudrais qu'on commence par, c'est impossible évidemment de tout décrire, là on a un manuscrit composite où le commentaire de l'Apocalypse a fait 100 pages hein, à peu près sur 112, donc il y a plein d'enluminures. On va essayer peut-être de commencer par celle-là, une pleine page du déluge au folio 85R, spectaculaire fin du monde, cadavres énucléés, des corbeaux qui piquent leur orbite creuse. Qu'est-ce qu'on voit, Isabelle Marchesin ?
On voit une destruction du monde et des corps,
oui,
qui annonce la destruction finale et qui est celle du déluge vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, avec une très grande simplicité dans la structuration de l'espace, des bandeaux...
Des grands aplats de couleurs.
Voilà, en fait. Des grands aplats de couleurs, et dessus des corps de plusieurs formats, du plus petit pour l'enfant nu au plus grand en bas, avec la bouche ouverte, le corps quasiment dénudé, d'un monde qui disparaît.
Avec des animaux aussi.
Des animaux qui sont les animaux du quotidien aussi. Donc on est vraiment dans la vie des hommes, on est dans la cité des hommes qui disparaît, préfigure Babylone.
Et évidemment, ce qui est bouleversant dans le déluge, c'est que ça nous rappelle que la fin du monde a déjà eu lieu. C'est que nous vivons, nous, les femmes et les hommes de l'humanité, dans un recommencement. Pierre Soulages a dit « Lorsque j'ai connu le Guernica de Picasso, je me suis dit « Pas possible, il a dû voir l'Apocalypse de Saint-Sever ». Et évidemment, Maria Stavrinaki, il y a quelque chose de ça quand même dans ces corps amoncelés.
En fait, ces grands corps qui se trouvent tout au fond de l'image, dans la première bande saturée de couleur rouge, il y a un grand corps qui donne un peu l'échelle dans cette peinture qui n'a pas d'échelle.
Avec, d'ailleurs, c'est intéressant, une tunique très courte et ils sont tous presque dénudés.
Tout à fait. Et puis, il a des grandes jambes qui viennent couvrir partiellement le corps de l'animal qui se trouve juxtaposé à lui. Et il y a donc une tête qui est une tête avec la bouche ouverte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et un œil qui est un œil creux, un œil vide. Et donc, c'est l'historien de l'art Anthony Blunt qui a écrit la première monographie sur Guernica. Et c'est Anthony Blunt qui a, voilà, la recherche comme ça d'une histoire de l'art attributionniste, qui cherche toujours, qui est toujours en train de trouver des motifs, des sources, qui est la première filiation à la Guernica de Picasso et de Saint-Sever sera faite.
C'est peut-être d'ailleurs dans le texte de Georges Bataille que je citais,
oui,
qui est paru dans Documents,
oui,
que Picasso a vu.
Absolument, absolument. Et qu'effectivement, Picasso a pu tout à fait voir Saint-Sever. Mais après, il y a toute cette superposition des regards, comme le nôtre, parce qu'effectivement, quand nous regardons cette image, c'est la superposition de Picasso, la superposition de plein de manuscrits médiévaux qui vient former notre regard.
Et vous, Isabelle Marchesin, évidemment, vous êtes médiéviste, vous avez fait la cartographie de cette géographie du mal dans ce beau livre. Bah, il vous faut aussi décaper tous ces regards déposés sur l'œuvre pour essayer de la ramener à son contexte initial. Nous sommes donc dans une abbaye de Gascogne, pas n'importe laquelle, Saint-Sever, et un grand abbé commanditaire de l'œuvre, reprend une tradition, une très longue tradition, qui est celle effectivement de l'enluminure du commentaire de l'Apocalypse de Béatus de Libane.
Alors cet abbé, c'est Grégoire de Montaner, un homme extrêmement puissant, à la tête d'un monastère lui-même très puissant, et qui depuis sa fondation au Xe siècle a des liens tout particulier avec l'Espagne. Donc, outre le contexte historique sur lequel on peut éventuellement insister, venir, oui. Voilà, un peu plus tard, ça explique pourquoi on se retrouve ici avec une sorte d'unicum dans une immense tradition, une des plus importantes traditions de reproduction de manuscrits du premier Moyen Âge. Le premier Beatus, le premier commentaire illustré, remonte au 8e siècle, la fin du 8e siècle, mais on l'a perdu. On a quelques fragments un peu plus tardifs, et le premier manuscrit d'importance qui nous soit demeuré est un manuscrit du 10e siècle qui est conservé à la Pierpont Morgan Library. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, Beatus de Libana, ce moine espagnol héritant d'un savoir tel que l'Espagne visigothique avait pu l'accumuler, a décidé de produire un commentaire qui est une synthèse des commentaires précédents en y associant des images. Et il explique dans son prologue pourquoi il choisit immédiatement d'adosser à son commentaire des images, tout simplement parce que cela a des vertus pédagogiques importantes.
Oui, et aussi théologiques, parce que, vous le dites bien dans le livre, Isabelle Marchesin, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est déjà des images. Mmh. Ils sont des images divines.
Ce sont des visions.
Ce sont des visions.
Alors, ça renvoie aux grands prophètes de l'Ancien Testament, en particulier Ézéchiel ou Daniel. Mais oui, ce sont déjà des visions. Et une autre tradition de l'Apocalypse, au tout début du 9e siècle, cette fois du côté carolingien, dont le premier exemplaire est présenté à l'exposition de la BNF Apocalypse hier et aujourd'hui. Cette autre tradition pointée, cette singularité qui est, nous avons des visions qui doivent, après avoir été transcrites en mots, retourner à l'état de représentation. Ça, c'est une complexité qu'on ne trouve pas ailleurs.
Des visions, Maria Stavrinaki, ça c'est important pour le regard moderne ou moderniste qui va se porter sur ces œuvres.
Tout à fait, parce que la vision, évidemment, l'essence de la vision change. Parce que l'art moderne, dans quelques-uns de ses versants, par exemple dans certains abstraits comme Kandinsky ou Malevitch, l'art est la vision. Oui. C'est-à-dire que la réalité est une fausse vision. Et l'art, la fonction de l'art dans ce monde prosaïque et répétitif, c'est de pouvoir effectivement révéler ce qu'on ne voit pas. Et donc c'est une ouverture dans des mondes possibles qui ne sont pas le monde immédiat dans lequel on vit.
Alors, on va révéler tout ça, évidemment, mais à partir peut-être d'une autre lecture moderniste, la lecture musicale de Pierre-Henri en 1969. Écoutons un extrait de l'Apocalypse.
Deuxième partie. Les quatre cavaliers. Et je vis un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Lui fut donné une couronne, et il partit vainqueur et pour vaincre. Et sortit un cheval couleur de feu. À celui qui le montait, il fut donné d'arracher la paix de sur la terre, et que les hommes s'entr'égorgent. On lui remit une épée longue et lourde. Et je vis un cheval noir, et celui qui le montait avait une balance dans la main, pour mesurer le blé de la famine. Et je vis un cheval de brouillard, et celui qui dessus montait, son nom est mort, et l'enfer les suivait.
Et je vis donc ces visions de gens de Jean à Patmos, l'Apocalypse, la révélation des trésors cachés du monde, et le commentaire de Beatus de Libana, un peu avant 800, à un moment apocalyptique ou messianique, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, d'une certaine manière, on le lit après la fin des temps, puisque il avait plutôt prophétisé, on va dire, la fin, disons, du sixième âge en 800. Mais là, on est Isabelle Marchesin après l'an 1000, et on continue, évidemment, à voir, à commenter, et à trouver qu'il y a là, dans ces images, des images pour aujourd'hui. Mais c'est l'aujourd'hui de l'an 1000.
Oui, et c'est vraiment ce que pointe l'exposition de la BNF. L'Apocalypse est toujours d'aujourd'hui. Pour ce qui est de cette fin de XIe siècle, on a un contexte historique qui est assez complexe. On est en pleine féodalité avec une crise de succession dans le comté de Gascogne, complété par des problèmes théologiques qui s'expriment par la tenue de conciles, d'abord de condamnations, puis des conciles relatifs à l'hérésie. L'évêque Grégoire de Montaner a un rôle absolument central auprès du nouveau dirigeant du duché d'Aquitaine, et il prend très à cœur de faire de Saint-Sevé le cap de Gascogne, c'est-à-dire un évêché qui va littéralement irriguer et orienter toute la politique religieuse de la région, d'autant que ils ont obtenu une exemption, un peu comme Cluny, et ils se rattachent directement à la papauté romaine.
On est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mais on est aussi sur une société de frontières.
C'est ça.
Qui est assiégé de tous les maux, pense-t-il. Et il y a effectivement l'hérésie, il y a l'islam, il y a les juifs, et tout cela, je dirais, fait porter à l'incandescence cette inquiétude messianique.
Et également un incendie qui va ravager l'église. Qui arrive juste avant, on le pense, la réalisation de ce manuscrit. Donc un moment difficile dans lequel cet apocalypse commenté et illustré va faire office de manuscrit emblématique de l'abbaye et représenté en l'absence du bâtiment lui-même, de l'église, la communauté dans son intégralité.
Oui, et on l'a dit, c'est un manuscrit composite, Isabelle Marchesin, donc qui est pour l'essentiel constitué du texte de Béatus de Liébana, mais où il y a d'autres textes, il y a des généalogies bibliques notamment, et sur une de ces généalogies préfatoires, enfin sur une colonne décorative de cette généalogie, on lit Stephanus Garcia Placidus. D'abord on s'est dit, tiens, c'est peut-être l'artiste, et puis non, ce sont trois artistes, c'est une triple signature, et trois artistes différents dont Charlotte de Noël a retrouvé la main dans le manuscrit. Il y a là un puzzle herméneutique fascinant. En fait, c'est pas trois, c'est quatre d'ailleurs.
Alors, effectivement, c'est une des grandes découvertes de Charlotte de Noël, qui s'est faite après que l'on a délié les feuillets du manuscrit. Et dans les marges, on a trouvé, en sus de l'identification des mains, des signes graphiques, des lettres, qui indiquaient, donc à des collègues du peintre et copiste principal qui est Stephanus, quels étaient les motifs qu'il fallait représenter. Et donc c'est toute une équipe d'artistes travaillant en parallèle qui a été identifiée pour expliquer que nous sommes là, non pas devant une œuvre qui est le fait d'une seule personne, mais j'évoquais tout à l'heure une communauté, trois ou quatre peintres, Grégoire de Montaner aux commandes, mais également derrière, tous les artisans qui ont préparé les pots, élevé les troupeaux pour fournir ces pots, trouvé des colorants, donc un scriptorium d'une très grande envergure, avec un énorme investissement de la communauté dans son ensemble.
Ça, c'est intéressant, Maria Stavrinaki, parce que vous vous sentez chez vous, dans toutes les images anciennes, même dans la préhistoire. Mais là, il y a quelque chose qui doit vous dépayser, quand même. Parce que vous êtes, effectivement, l'historienne d'un art moderne qui met très haut la souveraineté de l'artiste. Là, on est quand même dans une œuvre collective, c'est un atelier.
Oui, mais... C'est ça qui caractérise précisément la modernité en général et l'art moderne en particulier. C'est que tout en érigeant l'idée d'un artiste génie, on n'a pas cessé d'avoir la nostalgie et un peu la jalousie de cette rêve d'un Moyen-Âge qui était précisément l'âge des anonymes, des croyants, des totalités organiques, des cathédrales où il n'y avait pas d'artistes qui signaient les œuvres. Donc effectivement, on ne peut pas comprendre l'art moderne si on ne raisonne pas selon la tension, avec cette tension entre l'autonomie d'un côté et les rêves de la communauté organique de l'autre.
Alors, il y a une communauté organique des images, également, Isabelle Marchesin, on ne peut pas tout décrire, il y en a des dizaines et des dizaines, mais quand même, dire un mot quand même de l'extraordinaire variété du système iconographique. Il y a ce qu'on attend, il y a le déluge, il y a les cavaliers de l'Apocalypse, mais il y a les marges, il y a les animaux, il y a un monde d'images qui s'ouvre et qui s'offre.
Oui, il y a aussi les Animalia qui sont tout à fait fascinants, cette série de personnages que l'on croyait être les évangélistes et qui se révèlent beaucoup plus complexes pour évoquer l'histoire du verbe, du commencement jusqu'à la fin, dans ses différents formats. Ce qui est intéressant dans cette Apocalypse, c'est qu'elle va reprendre la tradition du Beatus, que j'évoquais tout à l'heure, hein, mais également y ajouter des nouveautés qui remonte à l'époque carolingienne, puis un nouveau langage qui est celui proprement du XIe siècle, avec un regard un peu plus moraliste, des intentions à citer également la société laïque, qui n'existait pas dans le tout premier manuscrit. Donc on a l'impression, quand on survole, d'avoir des répétitions d'images, et en réalité...
Une trentaine, hein, c'est ça, hein.
Beaucoup plus.
Beaucoup plus.
Ah oui, 70.
Des
manuscrits.
Oui, des manuscrits.
Oui.
Des manuscrits.
Il y a 27 manuscrits illustrés.
Mais la plupart en contexte ibérique, il faut dire
la
aussi.
La plupart en contexte ibérique, avant le XIIIe siècle, sauf un en Italie et le Beatus de Saint-Sever, tous sont faits en Espagne. Donc c'est l'illusion de la répétition cède rapidement dès qu'on aiguise un peu son regard et qu'on travaille sur le détail. Et le détail est incroyablement signifiant. Thank you.
Et ben pendant qu'on écoutait Apocalypse Cigarette After Sex 2017, vous nous disiez combien, d'abord, ce manuscrit était lui-même un atelier collectif, mais aussi le livre qui lui est consacré. Je crois que ça vous a impressionné, hein, Maria Stavrinaki, tous ces médiévistes au travail, cette enquête, c'est quelque chose quand même.
Oui, et puis ce qui m'a non seulement la rigueur dans le travail, mais aussi ce qui m'a impressionné, c'est qu'effectivement, c'est des médiévistes qui, pour lesquels, par exemple, le structuralisme n'est pas une honte, voilà, qui recourent quand même.
Il y a pire dans la
voilà, vie. Voilà, qui recourent quand même à des méthodes qu'on a à peu près tendance à oublier aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Est très stimulant.
Ah, on est obligé parce que c'est tellement complexe. De toute façon, Isabelle Marchesin, que c'est quand même la structure iconographique et théologique globale que vous devez saisir dans sa matérialité. Ça, c'est important aussi. Le livre en rend fort bien compte. C'est un objet.
C'est un objet avec des encres différentes pour la rédaction du texte. Et les quelques variantes d'encre dans la norme établie par Grégoire de Montaner sont toujours extrêmement signifiantes. Et le moment où on parle de la science et de l'ignorance comme facteur d'intelligence et d'erreur est dans une couleur opposée à celle habituelle des commentaires, par exemple. Donc les couleurs servent à attirer l'attention. Exactement la même chose pour les peintures.
Oui.
On a des choix de pigments singuliers pour certaines images. Charlotte de Noël a, dans les analyses physico-chimiques qu'elle a commandées pour le manuscrit, identifié le bleu égyptien sur les ailes du Pan en particulier, qui est la figure magistrale du Christ dans le manuscrit. Mais on a aussi des jeux sur les ors de différentes natures, plus ou moins brillants, pour indiquer la qualité de lumière et donc de présence divine et de clarté dans les images.
Et c'est là, évidemment, où le manuscrit, dans son extrême crudité figurale, je dirais, peut rejoindre l'abstraction, et l'abstraction de l'art moderne. Écoutez Alfred Manessier au micro de Pierre Descargues en 1983.
L'échelle est spirituelle, elle est aussi grande dans le petit objet qu'est ce livre, que dans les fresques les plus monumentales que l'on puisse rencontrer au XIIe siècle. Mais c'est le même esprit, c'est la même façon de découper l'espace, c'est la même façon de comprendre la couleur, la lumière, l'absence de perspective, enfin, toutes ces choses qui, lorsque j'étais jeune, me gênaient dans la tradition de la Renaissance. Mais cet apocalypse me tient tellement à cœur, parce que c'est vraiment la première fois de ma vie que je me suis mis à transformer ma peinture moi-même. J'ai fait un fond rouge à côté d'un fond bleu au lieu de mettre un ciel et une terre. J'ai pas mis les objets ou les monstres ou les anges que l'on voit là. J'y ai mis d'autres choses. Mais ma propre peinture a été littéralement transformée par cet apocalypse.
J'aimerais votre réflexion de peintre sur le fait qu'une création de l'an 1000 du XIe siècle peut jouer un rôle au XXe siècle dans l'œuvre d'un artiste. Est-ce que c'est pas un peu troublant ?
Ben oui, c'est troublant de trouver sans cesse un mouvement de l'histoire qui s'oublie et qui se retrouve et qui ressource des choses qui sont bouchées, qui ne fonctionnent plus pour une génération. Il est évident que nous étions à la situation du bout de la Renaissance. Nous sommes peut-être encore des enfants de la Renaissance, ou les derniers enfants de la Renaissance, mais si nous avons pu continuer la peinture, si nous avons pu vivre autrement, c'est parce que nous avions retrouvé un monde beaucoup plus lointain, qui remettait en question le monde de la Renaissance, et je pense que c'est aussi pour cela que nous avons pu tenir, que personnellement j'ai pu tenir pendant 20 ans à la formidable vague américaine.
Eh oui, c'est troublant, Maria Stavrinaki, mais vous êtes historienne de ce trouble, justement.
Absolument.
Ce trouble que nous, les enfants de la Renaissance, comme dit très bien ce peintre, voyons dans cette Renaissance de l'archaïque.
Tout à fait, une Renaissance de l'archaïque qui n'a pas de limites. Parce qu'à partir du moment, effectivement, où on essaye de se dégager de la prise du classique et de ce retour dans le temps moderne, on va de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et aujourd'hui, on est effectivement au point où tout cela coexiste dans un éternel présent. On a tous ces différentes citations. C'est-à-dire qu'en tant qu'historienne, je comprends très très bien ce que ce peintre vient de dire, mais en tant qu'une personne qui vit dans l'aujourd'hui, je me dis, oh là là, mais ça fait... Oui. C'est un autre âge. Oui. Quand on essayait encore de se dégager du classique, hein, parce oui. qu'aujourd'hui, forcément... Tout est disponible.
Oui, c'est un autre âge, mais c'est celui de Picasso.
C'est
celui,
exactement.
Il y en a d'autres, d'ailleurs, des grands...
Des grands qui se sont intéressés, ou qui peut-être se sont intéressés, hein, parce qu'en fait, l'un des grands médiateurs dans cette histoire, à part Bataille, donc, que vous avez déjà mentionné, mais le grand médiateur dans cette histoire, c'est Meyer Shapiro,
oui.
cet historien de l'art qui reste tellement inspirant. Et qui, lui-même, évidemment, il a beaucoup écrit hein, sur les différents Beatus, hein, en projetant quand même aussi ses propres urgences méthodologiques, hein, qui sont très intéressantes. Mais on voit comment aussi la façon dont Meyer Shapiro il utilise les Beatus pour faire des lectures marxistes qui résonnent avec l'esthétique de Trotsky, etc., ou la critique du formalisme qui reste insensible à la politique des années 30. Mais c'est lui aussi qui a accueilli tous ces peintres qui ont fui l'Europe pendant le nazisme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui les a accueillis donc à New York et qui leur a montré des Beatus qui se trouvent à la Morgan Library et qui a témoigné ensuite en disant l'incroyable admiration d'un Léger, d'un Matta, d'un Masson
oui.
pour ces manuscrits. Et donc Meyer Shapiro ensuite, il a dit « Ah oui, je pense que dans telle œuvre de Léger, je vois voilà, telle... Oui. » résonance du manuscrit.
Et évidemment, à partir du moment où on nous le montre, eh bien, on
peut
le
reconnaître.
On peut
oui.
le reconnaître.
Mais on n'est pas obligé de le faire non plus.
Non plus. Oui, non. oui. C'est pas simplement un jeu oui. des attributions et des reconnaissances, mais c'est une reconnaissance de la puissance d'avant-garde, en fait, de cette œuvre, parce qu'il faut le redire, Isabelle Marchesin, vous avez fort bien décrit dans ce livre la tradition iconographique, mais là, avec le Beatus de Saint-Sever, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est celui qui sert de guide également à l'exposition, ou en tout cas au catalogue de la BNF sur Apocalypse hier et aujourd'hui, c'est un unicum, ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui se détache de cette tradition.
Ce qui se détache de la tradition dans le Beatus de Saint-Sever, c'est que l'iconographie a été adaptée aux besoins propres de cette communauté monastique de Gascogne de la fin du XIe siècle.
Et c'était quoi l'urgence ?
L'urgence, c'était de... Alors, je dirais qu'il y a plusieurs urgences. Et après, on peut pas être totalement affirmatif sur les raisons pour lesquelles cette communauté d'hommes a décidé de réaliser une œuvre aussi imposante. Mais je proposerais que la première urgence, c'était la purgation interne. C'est-à-dire...
C'est la réforme.
C'est la réforme interne de la communauté et de l'Église. Au sens large de l'Ecclésia, la communauté des croyants de ce sud-ouest de la France, qui devait être menée par l'abbé.
Et la réforme, il faut s'en souvenir, en contexte chrétien, c'est d'abord un mouvement intérieur.
Bien plus que des combats à mener contre des ennemis de l'extérieur.
Voilà.
C'est vraiment en interne.
Or, on a quand même beaucoup mis en avant l'historiographie ancienne, une vision, je dirais, apocalyptique de l'Apocalypse, avec les ennemis de l'extérieur, etc. En fait, ce sont des figures abstraites, également, de méditation. C'est ça ?
Oui, c'est toutes les possibilités de pécamineuses, donc de chuter, qui sont présentés, et en même temps, toutes les réponses possibles et attendues qui sont fournies par la révélation, c'est-à-dire le mode d'emploi du salut fourni par la tradition. L'Apocalypse étant, en tout cas dans le Beatus de Saint-Sever, présenté comme une sorte de cinquième évangile, une sorte de complément aux quatre premiers, permettant de s'adresser, de se tenir, en ramenant tout un passé compris du monde et de l'Église, de se tenir devant le jugement dernier qui va arriver.
Il y a quelqu'un qui nous donne régulièrement des nouvelles de nos urgences, c'est Mathieu Pot-Bonneville, qui est directeur du département culture et création de Beaubourg, dans ses cartes postales qu'il nous envoie.
Vous allez écrire un livre.
Un livre ?
je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, dans le beau film que James Mangold consacre aux années de jeunesse de Bob Dylan, figure un dialogue saisissant. Quand sa fiancée lui annonce devoir s'absenter 12 semaines pour ses études, Dylan rétorque « Dieu a créé le monde en 6 jours, 12 semaines c'est beaucoup plus long, qu'est-ce que je vais faire de tous ces jours en plus ?» J'ignore si cette phrase est attestée, mais poétique, arrogante et revêche, elle ressemble bien à Dylan. Et pour dire à la fois son ambition et son vertige d'être livré à lui-même, l'image théologique est bien balancée. Il y a d'abord le temps compté de la Genèse, à chaque journée sa tâche, oiseau, poisson, l'homme, la femme, comme une espèce de to-do list. Et puis cette liste, une fois close, arrive le temps qui suit, ces extra days que le péché inaugure et où la liberté humaine est commise à se déployer. Dans le film, cette scène prend place en 1962. Dans la réalité, le 10 janvier 2025, le milliardaire Peter Thiel, soutien de Donald Trump, a fait paraître dans le Financial Times une longue tribune intitulée « Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche inaugure l'apocalypsis des secrets de l'ancien régime ». Rappelant que « apocalypsis » signifie en grec « révélation », Thiel énumère longuement les vérités cachées sur lesquelles l'arrivée de Trump fera enfin la lumière pour lui. L'assassinat de Kennedy, l'origine du Covid-19, toutes ces questions sombres qui, je cite, « surgissent dans les dernières semaines crépusculaires de notre interrègne ». À bien lire le texte, on comprend que ce mot de « interrègne » ne désigne pas simplement l'intervalle entre l'élection et l'investiture du président élu. Dans l'esprit de Thiel, cette courte période achève l'interminable attente où le monde était pris avant le triomphe d'Internet dont Trump accomplira la révélation. L'interrègne, c'est le temps qui précède. C'est le temps d'avant les derniers temps, autant dire l'histoire humaine telle que nous la connaissons, alors que l'avenir, écrit-il, exige des idées nouvelles et étranges. « The times, they are changing », nasillait Bob Dylan. Et de fait, nous voilà non plus après le début, mais juste avant la fin. Fini le temps qui suit, vient le temps qui précède. Il ne s'agit plus, comme en 1962, d'inventer ce que l'on fera après que des chansons auront créé le monde. Il s'agit de se réjouir qu'enfin, cette indécision se referme. Et que revienne, symétrique de la création, une autre to-do list, une apocalypse programmée, une fin des temps réglée comme papier musique. À propos de l'apocalypse de Jean, Gilles Deleuze écrit quelque part, je cite, « Ce qu'il y a de nouveau, c'est que l'attente y devient l'objet d'une programmation maniaque sans précédent. L'Apocalypse est sans doute le premier grand livre-programme, à grand spectacle. La petite et la grande mort, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, etc. Voilà de quoi combler l'attente et l'occuper, une espèce de folie bergère avec cité céleste et lac infernal de soufre. » Fin de citation. Vous vous en souvenez, Patrick ? Avant l'élection, Donald Trump annonçait que sur ses 4 ans de mandat, il ne serait pas dictateur, sauf la première journée. Sur 4 années, cela laisse 1459 extra days. Nous allons trouver le temps long.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Oui, le temps c'est long, surtout vers la fin. Le quelque part où Gilles Deleuze a écrit ça, c'est dans Critique et Clinique. On aimerait avoir son intelligence joyeuse, mais je vous conseille quand même de regarder, c'est Le Grand Continent qui l'a traduit, cet article de Peter Thiel sur Trump et l'Apocalypse. C'est de ça dont il s'agit aussi, Maria Stavrinaki. C'est que, voilà, aujourd'hui, c'est pas seulement l'âge atomique, vous en avez fait l'exposition, c'est pas seulement la guerre, c'est effectivement cette catastrophe lente à venir qui est la nôtre.
Qui est la nôtre. D'ailleurs, je pensais justement à la façon dont le roi Gouran finit les gestes de la parole. Il utilise le terme apocalypse pour parler de sa peur, qui est l'âge cybernétique, de l'homogénéité de l'automatisme généralisé, Ce sera peut-être le futur du geste de la parole humaine. Je pense que ce qui est intéressant à penser, c'est que l'âge atomique n'est pas seulement la guerre. L'âge atomique, c'est une apocalypse lente sans eschaton, comme disait Ernesto De Martino, l'ethnologue italien. C'est-à-dire que l'âge atomique, parce qu'elle promouvait
c'est
constamment...
C'est pas la mort soudaine, c'est aussi la mort lente.
C'est la bombe banale et le consentement à vivre ce temps sans fin qui est le temps de l'entraînement au pire.
Et reconnaissez-le, Isabelle Marchesin, vous êtes médiéviste scrupuleuse, vous ramenez ces images à leur temps, mais parfois elles vous sautent au visage. Il y en a certaines qui, inévitablement, s'invitent dans nos propres hantises contemporaines.
Oui, en entendant parler tout à l'heure de Trump, j'avoue qu'il y a une image au folio 184 verso qui représente le faux prophète, le dragon et la bête crachant les esprits impurs, qui attire le regard et de façon très spectaculaire sur les méfaits des mensonges, de la médisance et de la fausse prédication, puisque on voit sortir de la gueule du prophète, du dragon et de la bête des crapauds extrêmement terrifiants. Et j'avoue que oui, c'est une image qui s'impose à mon esprit de temps à autre lorsque j'entends parler le président des États-Unis.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Apocalypse, please.
We'll be right back.
Vous êtes bien sûr France Culture, vous écoutez Allons-y voir, c'est Muse, Apocalypse, Please. Et puis maintenant, bah, c'est surtout Pierre Saint-Garavellou qui piaffait derrière la vitre. Pierre Saint-Garavellou, vous le connaissez, hein, la cartographie, c'est son dada, c'est sa marotte. Et il nous avait dit, mi-menaçant, mi-suppliant, ne parlez pas avant que j'arrive de la map monde de Saint-Sever. Ben voilà, on a tenu parole, on s'est tenu à carreau. Et donc, vous avez quelque chose à en dire, Pierre Saint-Garavellou, de cette map-monde ?
Bah oui, Patrick Bouchon, d'abord commencer par dire que cette map-monde se déploie sur une double page, à la fin du prologue qui précède le commentaire dont vous avez parlé, et cette image a disparu. Elle a été détachée du manuscrit, on ne sait quand, avant d'être retrouvée en 1866 chez un libraire, et d'être ensuite réinsérée dans le Beatus de Saint-Sever. Alors il s'agit... d'une des images les plus puissantes qui soit, vous l'avez dit, une carte du monde de 37 cm sur 57 cm, qui possède, comme toutes les cartes du monde, un pouvoir extraordinaire. Elle ne représente pas seulement la Terre, elle la crée en donnant à voir une planète qui est invisible autrement. Seule la map monde et le planisphère peuvent en effet rendre accessible en un seul coup d'œil l'infinie diversité de la planète que les mots peinent à décrire. Or, sur les 32 copies du Beatus, qui datent du 10e au 13e siècle, qui sont parvenues jusqu'à nous, eh bien, seules 14 contiennent une map monde dont la forme et le contenu diffèrent sensiblement, et la carte du manuscrit de Saint-Sever est considérée comme un chef-d'œuvre de la géographie médiévale.
Alors justement, cette cartographie médiévale, ben c'est Emmanuel Vagnon hein, qui l'étudie dans le livre. Elle a ses codes, surtout au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il y a de différent là, dans cette...
Eh bien, Emmanuel Vagnon montre bien d'abord que ce qui frappe, c'est sa forme. Une représentation épurée, à distance des ornements qui pallient bien souvent le manque d'information des cartes médiévales. On peut ainsi admirer des poissons bleus et des bateaux à rames, mais point de monstres marins et autres bestiaires imaginaires. Alors certes, le concepteur de la carte, qui est sans doute l'abbé Grégoire de Montaner, s'est largement inspiré des savoirs géographiques antiques et païens. On voit bien que cette map monde reprend le fameux schéma du T dans le O, oui. Schéma transmis par les étymologies d'Isidore de Séville du 7e siècle. Isidore de Séville, par lequel transite également la plupart des toponymes antiques, notamment ceux de Pline l'Ancien. Et donc on voit comment cet oikoumène, ce monde habité, est divisé en trois parties. L'Europe à gauche de la carte, l'Afrique à droite et l'Asie en haut, puisque la carte est orientée vers le soleil levant, c'est-à-dire la lumière du Christ. Donc un T dans le haut, car ces terres habitées sont entourées par un anneau océanique. Et à l'image en fait des cartes antiques, la mer Méditerranée se trouve au centre de la carte, avec, comme vous pouvez le voir, des îles excessivement vastes, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la Crète. Et il faut attendre le 12e siècle pour que Jérusalem et la Terre Sainte soient représentées comme le nombril du monde au centre des cartes.
Alors, c'est en effet, je dirais, la foire aux toponymes. Il y en a plein, il y en a certains, Isabelle Marchesin, qui sont aussi surprenants, parce que là, ça y est, vous avez le droit d'en parler, là, l'interdit est levé. Il n'y a pas que Rome et Jérusalem, justement. Il y a tout un horizon local.
Oui, l'horizon local qui est extrêmement visible, puisque en bas à gauche, on a deux bâtiments qui représentent des façades d'église, alors que les autres bâtiments de la carte, y compris pour Rome ou Jérusalem, sont vraiment des places fortes. Donc on a deux façades d'église surmontées par des croix. La première façade d'église correspond à l'abbaye de Saint-Sever, et de façon assez amusante, mais en même temps très signifiante, la deuxième, un peu plus bas à gauche, au bord de la mer, est Sainte-Marie de Mimizan. Donc on s'est posé la question, mais pourquoi Sainte-Marie de Mimizan ? Semblerait-il qu'il s'agisse de la petite église dépendante de Saint-Sever qui soit le plus à l'ouest, donc au bord du monde.
Oui.
Le plus loin dans la dilatation de l'église. dans le monde.
L'histoire mondiale de cette Marine Mimizan, on l'avait pas vu venir.
Parce que c'est une carte gasconne du monde. Et évidemment, les espaces les mieux connus sont ont tendance à être démesurément grandis. Il s'agit aussi de magnifier le rôle joué par cette abbaye dans le processus d'évangélisation du royaume des Francs. Mais c'est vrai que la carte, plus généralement, offre une géographie ecclésiastique extrêmement précise concernant les nombreux évêchés du sud-ouest de la France, hein, puisque sont localisés de manière précise Albi, Toulouse, Carcassonne, Bordeaux, Bazas, Agen, Dax, Bayonne, Tarbes, etc. Et plus on s'éloigne de la Gascogne, eh bien moins la carte s'avère précise, parce que on peut voir, par exemple, qu'en dépit des origines ibériques du manuscrit de Beatus que vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, Al-Andalus n'est pas du tout mentionné. Toutefois, c'est la seule map monde de la tradition de Beatus à faire une discrète référence à l'islam, avec dans la région de Nabatéa la mention des Sarrasins. Donc, dans les légendes très nombreuses de la carte, eh bien, les contrées lointaines sont systématiquement caractérisées par l'apparence des populations, les animaux, les ressources. Par exemple, en Asie, vous trouverez une description de l'Inde comme le pays où les hommes sont de toutes les couleurs, où se trouvent de nombreux éléphants, des dragons aussi, de l'or et de la cannelle.
Oui, on voit d'ailleurs dans d'autres éléments d'autres enluminures du manuscrit, des siapodes, enfin tous les monstres ordinaires des ailleurs médiévaux.
Oui, bien sûr. Mais la particularité de cette map-monde, disons, c'est que précisément, elle fait écho aux textes et aux commentaires. Elle permet en réalité de mieux situer les lieux mentionnés dans le commentaire de l'Apocalypse, mais aussi dans les autres textes du manuscrit de Saint-Sevé, comme le commentaire au livre de Daniel, puisque le concepteur de la carte prend soin de localiser, par exemple, les quatre empires évoqués par Daniel, babyloniens, carthaginois, macédoniens, romains. Tout en haut de la carte, vous pouvez trouver aux confins de l'Arménie et de son mont Ararat, où aurait échoué l'arche de Noé après le déluge, eh bien vous trouvez ce vaste espace rectangulaire avec ce majestueux arbre de la connaissance,
ah oui,
Adam
voit.
Et Ève, évidemment, le jardin d'Éden. Donc Emmanuel Vagnon, qui a étudié cette carte, montre bien que elle doit illustrer le progrès de la chrétienté dans le monde. Il s'agit d'une sorte de carte de la mission évangélique.
Oui, mais alors justement, vous savez où on vous attend vraiment, Pierre Saint-Garvelou, c'est nous dire s'il y a des influences extra-européennes dans cette carte, et puis surtout, quelles sont les autres traditions que la tradition occidentale de la cartographie.
Alors c'est une question fondamentale, mais qui paradoxalement a été peu étudiée par les chercheuses et les chercheurs, en fait à l'exception du pape de l'histoire de la cartographie David Woodward, qui a fait le lien entre la carte de Saint-Sevé et la tradition iconographique hispano-mauresque. Et un des éléments qui pourra attester cette influence se trouve à l'extrême droite de la carte, c'est-à-dire au sud de l'Afrique, une grande zone torride colorée en rouge qui représente l'océan Indien et qui sépare le monde habitable de la terre des Antipodes. Et c'est précisément cette terre des Antipodes qui fait précisément penser à la terre australe représentée traditionnellement dans la cartographie arabe à la même époque. Mais il faut bien dire, vous l'avez suggéré Patrick Boucheron, que l'Europe ne possède pas le monopole de la production des cartes du monde. À la même époque, la cartographie islamique est en plein essor avec par exemple les map-mondes d'Ibn Hokal. Et si notre critère d'évaluation est la raison topographique qui s'impose tardivement en Europe à l'époque moderne, en ce milieu du Moyen-Âge, c'est la Chine qui excelle. Avec d'un côté des map-mondes sino-tibétaines qui, dès le début du 8e siècle, représentent sous forme géométrique les pays du monde du Japon jusqu'à l'Empire byzantin, et puis surtout des cartes extraordinaires comme celle de Yu en 1136, dont le niveau de précision topographique ne sera égalé par les Européens qu'au XVIIIe siècle, avec par exemple les cartes de Cassini. Ces cartes, en fait, nous en conservons la trace parce qu'elles étaient gravées sur des stèles d'un mètre sur un mètre, elles étaient disposées dans la cour des écoles, et on pouvait ainsi les reproduire à l'infini grâce à la technique de l'estampage plusieurs siècles avant l'invention de l'imprimerie. Donc il existait plusieurs foyers d'innovation et de pratiques cartographiques en ce début de premier millénaire, de second millénaire.
C'est intéressant, Maria Stavrinaki, parce que ce détour par la carte, par cette map monde du Béatus de Saint-Sever, bon, ben voilà, vous dites tous Saint-Sever, ben je vais m'y mettre, hein, j'ai commencé l'émission en disant Saint-Sever, mais allez, bon, Saint-Sever, ben, ça nous amène à comprendre que cette apocalypse, c'est aussi l'idée d'empire qui, fondamentalement, dans la modernité, en est la porteuse.
Oui, et surtout après 1945, quand précisément on a une, comment dire, le monde est vraiment clos.
Oui. Hein,
et l'art va être extrêmement conscient. Beaucoup, beaucoup d'artistes vont essayer de formuler cette nouvelle expérience de l'histoire qui est vraiment la conscience que le monde est clos. Et que, qu'est-ce qu'on fait de cette tension apocalyptique entre, donc, elle est déjà là, elle n'est pas encore, quand tout est là.
Tout est déjà là.
Tout est déjà là. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle, d'ailleurs, la carte sera extrêmement investie par beaucoup d'artistes des années 60-70.
Tout est déjà là, Isabelle Marchesin, dans cette vision globale aussi de ce monde de la seconde moitié du XIe siècle, qui se sent en danger, mais qui se sent aussi accompli. D'une certaine manière, c'est tout à fait frappant à voir, à se plonger, à rêver aussi dans ces images. Et ben, on comprend que oui, c'est non seulement un monde d'images, mais c'est un monde qui, d'une certaine manière, va moins à sa fin qu'à son achèvement.
C'est cela, la carte est le complément de tout le pointage historique, à la fois des grands empires et de l'histoire biblique, qui se déploie à l'intérieur du manuscrit, en texte, en commentaires et en images. Donc, on est vraiment dans une sorte de possession de connaissances qui donne accès à une unité du monde, chez des savants aussi qui sont des polymathes et qui ont cette expérience des héritages littéraires et aussi cet héritage des traditions artistiques qui les pose en surplomb. On est vraiment devant des hommes qui font des synthèses leur permettant de comprendre le monde tel qu'il est.
Et nous, on est où dans ce monde? Enfin, comment vous, à la fin, après avoir tant regardé, tant travaillé ce manuscrit, ça vous inquiète, ça vous apaise, ça vous enthousiasme toujours autant? Quel est votre état d'esprit, Isabelle Marchesin?
Ça m'enthousiasme et ça m'amuse beaucoup.
Ah, ça vous amuse?
Oui.
Mais parce vous aussi, j'ai
tellement
l'impression.
Tellement à chercher encore.
Ah ouais, d'accord.
Tellement à comprendre.
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est devant cette map monde qui est une carte mentale, on se dit que, bah oui, le mental est là pour rester à jamais, sans
ouais.
fin.
Mais pourtant, vous êtes une historienne de la stupeur. Maria Stavrinaki,
oui.
Mais là, vous ne la voyez pas vraiment.
Si, c'est-à-dire que la stupeur, quand même, c'est, bon, c'est comme le disait Descartes, hein, c'est une passion, comment disait-il, première, hein, qui peut-être vire vers l'étonnement, peut-être vers la stupidité, et on est pris de façon apocalyptique entre les deux constamment.
Étonnement, stupidité.
Oui, mais moi, ça me donne envie, pour penser en fait les éventuelles singularités de cette vision apocalyptique qui est quand même judéo-chrétienne, eh bien, ça me donne envie de m'intéresser aux traditions eschatologiques non occidentales,
bien sûr.
Chinoises, de l'hindouisme, etc. Et ça, qui donneront lieu peut-être à une autre exposition.
Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Maria Stavrinaki, Isabelle Marchesin et Pierre Saint-Garavelou. Les références de vos publications sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Jeanne Agrapart, à la prise de son François Saint-Jour et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.